Je parle. Je sais pas vous, mais peu importe jour ou nuit, l'important c'est qu'il nous parle. Et il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur, un texte que j'avais lu il y a quelque temps en arrière, et dans ma lecture quotidienne, je suis revenu dessus. Et c'est en 1 Samuel au chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 15 sera notre méditation ce matin, mais pour se localiser un peu dans l'histoire et dans le tableau biblique, on est dans ce moment où, en effet, le roi, malheureusement, enchaîne les erreurs. Quel a été le premier roi d'Israël ? Saül. Et Saül a été un roi parce que le peuple voulait un roi. Triste. Et si vous faites bien attention, bien du temps en avant, Dieu avait déjà prévu et prévenu qu'il y aurait eu un moment où le peuple aurait voulu un roi pour être comme les autres peuples. Et nous, nous disons aujourd'hui, Seigneur, on veut être un peuple différent. On veut être le peuple de Dieu, n'est-ce pas ? Seigneur, combien de fois on peut faire des erreurs ? Mais c'est vrai aussi qu'on a goûté aussi au roi de ce monde. On a goûté au péché et on sait combien nous pouvons être malheureux quand le péché règne dans notre vie. Le roi enchaîne les erreurs et une erreur incroyable qui est rapportée au chapitre 13, c'est ce moment où le roi, puisqu'il se trouve dans le combat, il souhaite entamer le combat, mais il voit les troupes se retirer parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors on va faire la lecture ensemble, et ce matin, je voudrais, le titre du message de ce matin, c'est « Attention à ne pas tomber sous le monopole de l'ennemi ». Vous comprendrez mieux le titre tout à l'heure. On fait la lecture, 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 15. « Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gueba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shaoul, l'autre prit le chemin de Benoron et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tsebaïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël car les Philistins avaient dit empêchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, son hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des noyaux et des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva au jour du combat qu'il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne se trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Amen. Quand on fait la lecture de ce texte, nous voyons différentes choses qui nous interpellent. Et en effet, au verset 3 du chapitre, il nous fait part de la victoire de Jonathan. Jonathan aura une victoire sur le camp des Philistins et Saül profite de cette victoire. Il se dit finalement, malgré les erreurs que j'ai pu déjà enchaîner, Dieu est toujours avec moi. Vous savez, on sait parfois qu'on a commis des erreurs, qu'on n'est pas en ordre avec Dieu, mais on est un peu dans cet état, on se dit peut-être Dieu ne l'a pas vu l'erreur. Il est tellement occupé. Et peut-être que ce n'est pas si grave. Certains disent que c'est péché, mais non, ce n'est pas péché. Et on banalise certaines situations. Moi, je pense que la grâce de Dieu est cette grâce qui nous pousse en avant. Et quand nous faisons des choses qui ne vont pas bien, ce n'est pas comme si elle était arrêtée, coupée d'un coup. Non. Il y a encore un effet qui nous pousse un peu en avant. Mais vous savez, c'est comme la voiture, quand vous éteignez le moteur, elle roule encore un peu, mais après la force qui l'a poussée jusque-là, à un moment, s'arrête. Mais on est dans l'illusion qu'on avance quand même. Et Saül était dans cette illusion que là, la victoire, il y en avait une, c'est son fils qui l'avait remporté. Donc, allez, c'est le moment d'appeler tout le peuple, c'est reparti, tout va bien. Et le texte nous dit au chapitre 13, versets 2 et 4, « Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Guéba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal pour appeler le peuple » à le rejoindre dans le combat, il fait sonner de la trompette. Combien de fois on vit quelque chose et on sonne tout de suite de la trompette? Oyez, 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 entendez bien. Dieu est avec moi, je suis béni, je suis celui, ceci, cela, parce qu'on a réussi quelque chose et on ne prend pas le temps de voir si véritablement Dieu est avec nous. Il prend et il récupère en plus la victoire remportée par son fils. C'est son fils qui a fait la victoire et c'est lui qui a gagné. Ça aussi, parfois, on est un peu champion. Saül aggrave sa situation, versets 13 et 14, toujours du même chapitre. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » En effet, Saül, en voyant que Samuel n'arrivait pas à temps, il a offert lui-même le sacrifice parce qu'il voyait que le peuple s'en allait. Par peur de perdre ses moyens et parfois par peur de perdre nos moyens, nos appuis, je dirais même nos béquilles humaines, on se lance à faire des choses que Dieu ne nous demande pas ou que Dieu ne nous a pas données. Et là, on brûle des étapes. Et Saül a brûlé, je dirais quelque part, peut-être la dernière étape qui allait mettre en évidence le fait qu'il ne tenait plus compte des lois de Dieu, qu'il ne respectait plus Dieu et encore moins sa parole. Vous savez, quand on agit comme ça, ça va parfois par paliers. Il y a des paliers qui sont longs, mais parfois c'est une glissade directe. Et Saül, on voit que c'est une glissade directe. Mais ce qui a interpellé particulièrement mon cœur, c'est ce petit texte que nous avons lu, je ne sais pas combien d'entre vous ont fait attention. Il dit que ne se trouvait, verset 19, on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Quand on cesse d'entretenir le feu, et on arrête les forges, excusez-moi, on n'est plus des forgerons. Connaissez-vous des forgerons non pratiquants? C'est comme un boulanger non pratiquant. Quelle a été la technique des Philistins? Ils ont fait de manière, en réalité, à empêcher le peuple d'Israël de continuer à avoir des forges, ils ont détruit les forges, ils ont capturé tous les forgerons et les ont amenés en captivité pour qu'ils soient au service des Philistins, pour faire des armes pour les Philistins, mais pour qu'à fur et à mesure, les Hébreux, le peuple d'Israël, n'aient plus d'armes. Et la seule chose qui lui restait, c'était des outils de jardinage. Pire encore, c'est que même pour l'entretien de ces outils, ils étaient obligés d'aller auprès des Philistins. Si on prend tout ça et qu'on le compare à la vie de l'esprit, ça voudrait dire qu'à quelque part, premièrement, on ne prend plus le temps d'entretenir le feu de l'esprit, la louange, l'adoration, la prière, la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, quand on met dans le feu quelqu'un qui est forgeron, me dira si j'ai raison ou pas, on prend un métal qui est brut, qui n'a pas la forme définitive, qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être martelé. Et notre louange, frères et sœurs, excusez-moi, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça du ciel. On apprend à louer Dieu. On prend du temps pour louer Dieu. On apprend aussi, on dispose notre cœur. Et même si une fois, excusez-moi, on a mal chanté, Mais on remet dans le feu et on se dit, Seigneur, tu vas m'aider. Tu vas m'aider, Seigneur, parce que j'ai envie de louer pour toi. J'ai envie, Seigneur, je désire. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des musiciens. Y a-t-il des musiciens parmi nous? Levez la main, s'il vous plaît. Recensement. Levez la main, levez la main. Voilà. Marc comprendra rendez-vous. Si même pendant un temps, on s'est peut-être découragé, frères et sœurs, ce n'est pas pour autant qu'on doit cesser, mais on peut dire, Seigneur, aide-moi à progresser. Vous savez, moi je bénis le Seigneur parce que la première personne qui m'a fortement encouragé à apprendre un instrument, c'est ma mère. Mais il m'a encouragé d'une manière que je ne sais pas si elle est vraiment chrétienne ou pas. Je vous le dis, elle m'a dit, c'est simple, tu dois apprendre un instrument. J'ai dit, maman, laisse tomber, ce n'est pas fait pour moi. Elle m'a dit, ou toi tu joues d'un instrument, ou moi je joue de la ceinture. Bon, je me suis dit au combat, ceinture 1, Emmanuel 0. Je dis, ok. Elle m'a dit, on a 3 instruments à la maison. L'accordéon, la trompette et la guitare. J'ai dit, la trompette, je l'ai touchée, j'avais 8 ans, et je lui ai laissé des bosses, et mon père, il était vraiment pas content. L'accordéon, je ne me voyais pas, le mouvement n'était pas fait pour moi. Je me suis dit, allez, je prends la guitare. Mais ce qui m'a énormément aidé, c'est le désir de voir louer Dieu. Et je n'ai pas pu prendre de leçons de musique. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Et je prenais du temps tout seul dans ma chambre, je répétais les chants. Alors les premières fois, il n'y avait plus d'oiseaux dans la ville. Non, il n'y avait plus d'oiseaux, il n'y avait plus d'animaux dans la ville. Je dirais même les habitants avaient déménagé, avaient demandé l'asile dans les villages d'à côté. Mais Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Dieu fait grâce. Et je voudrais vous encourager, s'il est capable de se servir de quelqu'un nul comme moi, qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Mais oui, vous avez reçu des capacités, des talents. Alors je parle de la musique comme dans plein d'autres choses. Là, ce peuple que Dieu aime, que Dieu a choisi, a laissé de côté, s'est laissé déposséder, a laissé l'ennemi détruire les forges. Et vous savez, s'il y a quelque chose que l'ennemi n'aime pas, c'est quand le peuple de Dieu loue, c'est quand le peuple de Dieu prie, c'est quand le peuple de Dieu s'attelle à étudier, à lire la parole, à comprendre. Là, ça, il ne l'aime pas, donc il va tout mettre en œuvre pour détruire, pour que dans votre foyer, dans votre maison, la forge ne fonctionne plus. Voire pire, quand vous avez un problème, quand vous avez une difficulté, quand il y a des choses qui sont émoussées, qui ne tranchent plus dans votre vie, il vous pousse à aller voir l'ennemi pour lui demander conseil, pour qu'il aiguise encore un petit coup votre hache. Et vous savez l'ennemi ce qu'il fait? Je vais vous l'imager comme ça, une parabole. Un jour, un homme qui réparait les toitures devait partir en voyage et il demande à son fils, il dit à son fils, écoute, je vais partir, j'ai un congrès de couvreurs, je te laisse l'affaire et tu interviens s'il y a des besoins. Mais on ne fait pas trop, mon fils, on ne fait pas trop. Et donc, le papa part, une tempête arrive et différentes maisons sont endommagées, les toitures, il y a des tuiles qui se déplacent. Et donc, le fils est appelé parce que, voilà, papa n'est pas là et il monte sur les toitures et il répare ça aux petits oignons. Et quand le papa rentre, il lui dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Il dit, papa, voilà, il y a eu la tempête, un tel m'a appelé, il y avait des tuiles déplacées, il y avait ceci. Et le père lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai tout réparé. J'ai dit, t'as rien compris, lui dit le père. Il faut pas tout réparer. Si tu répares tout, ils vont plus te rappeler. Il dit, il faut laisser certaines choses, il faut laisser. C'est l'occasion pour qu'ils te rappellent. C'est le sens des affaires. Mais vous pensez que l'ennemi, n'a pas le même sens des affaires tordues? Vous pensez qu'il va vous aider véritablement à régler vos problèmes? Ou est-ce qu'il va laisser encore des tuiles déplacées pour qu'ils vous tombent sur la tête au moment venu? Les Philistins se chargeaient des petites réparations, des choses qui n'auraient pas pu permettre aux Hébreux finalement de reprendre le dessus. Et l'ennemi fera toujours de manière à vous occuper pour vous empêcher de revenir au sens le plus profond pour lequel Dieu vous a sauvé. Amen. Dieu nous a sauvés pour la louange de son nom. Dieu cherche un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et que se passe-t-il si le peuple n'adore plus? Mais la même chose que du temps du roi Saül. Et après, on va se satisfaire d'écouter un petit chant dans la voiture. Ah, c'est bien le petit calendrier, un petit feuillet le matin. Moi, j'appelle ça les MMM spirituels. C'est un petit bonbon. Tu le prends, tu l'avales et c'est parti. Alléluia, Seigneur, je me suis nourri pour la journée. Moi, je voudrais voir combien d'entre vous se nourrissent avec un M&M's. Vous ne connaissez pas les M&M's? Non? En général, on appelle un autre, n'est-ce pas? Mais ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas. Ça, non. Un seul M&M, ça ne peut pas faire grossir. Un seul, non. Un paquet, ah oui, c'est le problème. Mais est-ce que vous lisez tout le calendrier? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes discipliné. Aujourd'hui, on est... Donc, vous tirez le 6, pas le 7. Non? Mais combien de fois ça reste bloqué sur le 6 janvier, alors qu'on est le 6 octobre? Parce que même ça, ça devient parfois compliqué, n'est-ce pas? Et alors, on va chercher auprès des uns et des autres un conseil, une aide, une parole de la part de Dieu. Moi, je me rappelle d'un jeune qui venait me voir régulièrement. « Bonjour, pasteur, est-ce que Dieu vous a dit quelque chose pour moi ?» Je dis non. D'accord, culte d'après, il revient. « Pasteur, est-ce que Dieu vous a dit quelque chose pour moi ?» Non. Troisième fois, il vient me voir. « Pasteur, est-ce que Dieu vous a dit quelque chose pour moi ?» Je dis oui. « Ah bon, quoi ?» Mais qui veut que toi, tu ailles le voir pour qu'il te parle? Non? Parce que si je suis la pensée de ce jeune, moi, j'avais le temps de passer ma journée pour chercher la volonté de Dieu pour lui, parce que lui, il était occupé. Non? Alors, il y a peut-être un fond de vérité, mais à ce moment-là, on ne devient pas dépendant. Et je ne crois pas que Dieu nous demande, en tant que serviteurs de Dieu, de devenir des directeurs de conscience. Et Dieu est un père, mais il est mon père, mais il est aussi le vôtre, non? Est-ce que Dieu agit avec ses enfants d'une manière différente? Est-ce que Dieu est injuste? Non? Donc, pour quelle raison Dieu ferait de cette manière-là en nous rendant esclaves les uns des autres? Or, certes, Dieu peut... Et très souvent, peut se servir des uns et des autres pour nous confirmer, voire nous rappeler, voire même nous secouer. Souviens-toi! Mais quand Dieu veut te dire quelque chose, mon frère, ma sœur, t'inquiète pas, il va te réveiller même la nuit. Il n'y a pas de souci. Et il va te dire, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Le peuple a fait l'erreur de laisser les Philistins les déposséder de quelque chose. Et en effet, la forge était devenue le monopole des Philistins. Et le peuple s'est satisfait de ça. J'ai un petit problème, mais je vais voir un tel, il va me réparer ça. Sauf qu'au moment du combat, le constat était terrible. Quel était le constat ? D'armes. Et vous connaissez-vous une armée sans armes? Si une armée va se battre sans les armes, excusez-moi, c'est un carnage. Non? Mieux rester à la maison. On évite de se faire mal. Mais, excusez-moi, on est esclave de l'ennemi. Si je reprends ce texte au jour d'aujourd'hui, je pense que Dieu nous appelle, frères et sœurs, à ouvrir nos yeux. Si nous avons confié le SAV de notre vie à l'ennemi, c'est un gros souci. Combien de fois nous cherchons des solutions à nos problèmes en allant piocher dans la psychologie, dans la tout ce qu'on veut. Alors, il n'y a rien de mauvais forcément dans la psychologie, mais attention, et attention, tout n'est pas bon non plus, n'est-ce pas? L'intention qui est derrière, parfois elle est bonne, elle est saine, mais parfois elle est malsaine. Et ça comme toute chose. Est-ce que Jésus avait quelque chose de contraire envers les médecins? Non. Pourtant, Jésus guérissait, n'est-ce pas? Il y avait parmi les disciples un médecin, c'était qui? Luc. Ah, c'est magnifique. Donc Dieu n'a rien contre les médecins, n'est-ce pas? Et vous savez, Luc est un des disciples, pour moi, particuliers de la parole de Dieu. On n'entend pas de Luc qu'il ait fait de grands miracles. On n'entend pas de Luc qu'il ait ouvert des dizaines ou des centaines d'églises. Mais on entend de Luc qu'il a été auprès de l'apôtre Paul, ce collaborateur, cet ami, ce frère qui, dans le silence, a pris soin de l'apôtre Paul. Combien de Luc y a parmi nous? Il faudrait qu'il y en ait plus. Mais il faut aussi des pôles, il faut aussi des gens, il faut aussi des marques. C'est bien, Marc. Frères et sœurs, ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas le droit de laisser l'ennemi nous l'enlever. Nous n'avons pas le droit de recourir à la facilité en disant « ben, Dieu nous parlera par ceci, par cela ». Moi, parfois, je suis attristé de voir que quand on a un problème, on va chercher sur le sujet, on va chercher sur Internet. Ce n'est pas que je suis contre Internet, comprenez bien. Mais ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Ça peut nous encourager, certes. Mais attention, c'est comme si je vais chez le médecin, j'ai un problème, et avant moi, il y a Bernard. Bernard va voir le médecin et le médecin lui donne un traitement à Bernard. Et dès qu'il sort, Bernard, je lui dis, Bernard, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah ouais, j'avais mal à un pied. Et t'as donné un traitement? Ouais, donne-moi, écoute, je fais une copie, ça va aller aussi pour moi. Mais toi, t'as un problème au pied? Non, j'ai un problème au cœur. Mais je sens que ça va faire la même chose. Et nous, parfois, spirituellement, on fait la même chose. On prend l'histoire de quelqu'un et on la déplace sur notre vie en pensant que Dieu, c'est le même traitement et on soigne tout avec ça. Il y en a parfois qui sont bloqués sur un type de traitement. Mais est-ce que ça règle tout? La parole de Dieu, il nous dit qu'il arriva au jour du combat qu'il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple. Les seuls qui avaient une épée, c'était Saül et son fils Jonathan. J'aimerais lire avec vous ce texte d'Ésaïe 54, verset 6 au verset 8. Parce que peut-être ce matin, nous pouvons, par la grâce de Dieu, dire, écoute, voilà, moi, la forge, ça marche, ça fonctionne bien, je m'en sers, j'entretiens le feu, à la maison, on prend du temps, on prie, on lit la parole de Dieu, j'encourage mes enfants à le faire. Moi-même, je le fais, mon épouse, elle le fait. Et gloire à Dieu. Mais peut-être que depuis un certain temps, la forge s'est éteinte. Alors j'aimerais vous partager ce texte d'Ésaïe 54, versets 6 à 8. Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui était répudiée, dit ton Dieu, quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec grande affection, je t'accueillerai. Le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Mais l'amour de Dieu demeure toujours le même. Il a été encore dit ce matin. Et Dieu nous recherche, nous rappelle. nous attire à lui. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma force, de ma face, pardon, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur, l'Éternel. On va un peu plus loin, à partir du verset 13, toujours du même chapitre. Et voici la promesse de Dieu pour nous. Qui a envie de la promesse de Dieu? Mais ça nous engage. Regardez le texte. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Allô? Qui a envie que tous les enfants... Moi, je pense que la joie d'un père, c'est de voir ses enfants marcher sur... Non? On aimerait, autant que forgerons, que nos enfants continuent. Amen. C'est notre prière. Mais là, il y a une promesse. C'est bien différent. Ce n'est pas nous qui disons « Seigneur, j'aimerais ». C'est Dieu qui te dit « C'est comme ça ». Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon à feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Qui est ce destructeur qui brise les plans de l'ennemi? Qui brise les plans de Satan? Jésus. Alors si vous voulez, si on regarde bien ce texte, c'est vrai que Dieu s'est servi souvent de l'ennemi pour redresser le peuple d'Israël. Il l'a mis dans un temps d'esclavage, de pression, de difficulté, de crainte. Et encore aujourd'hui, parfois, Dieu nous dit « Tu veux faire ceci ? Vas-y. » Seigneur, je suis grand maintenant, j'ai compris, j'ai saisi l'importance et la profondeur de la vie. Je fais mes choix. Vas-y, tu verras bien. Et après, 5 minutes après, Seigneur, viens à mon secours. J'ai pas compris, tu m'as dit d'y aller. Mais ça marche pas. Non, c'est pas moi qui t'ai dit d'y aller. T'as voulu y aller. Et moi, je t'ai pas retenu. Je t'ai averti. Mais tu as pris ta décision et t'en payes les conséquences. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élevera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Si nous avons... peut-être un instant, arrêter de nous occuper de la forge. Si nous avons commis l'erreur de nous laisser convaincre de sous-traiter notre vie spirituelle, vous savez, en sous-traitance, parfois, ça coûte moins cher. Hier, on a fait les travaux de grand ménage de l'église et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pu se libérer pour cette matinée de grands travaux et je suis certain que la prochaine fois on sera encore plus nombreux. Déjà on était nombreux, mais la prochaine fois ça sera encore plus nombreux. Moi je le dis par la foi, après moi je le crois, mais je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pu se libérer. Je sais que parfois il y a d'autres situations qui nous empêchent d'être présents, donc le but, c'est de culpabiliser personne, croyez-moi. Et j'ai demandé à une sœur si elle avait un sécateur. Alors, si vous voyez les deux poteaux dehors, n'ayez pas peur, c'est moi. Et pendant que je coupais, l'outil a cassé. Trop de force ? Je ne sais pas. Ou pas assez costaud ? Alors je me suis renseigné, j'ai dit « Sylviane, écoute, je voulais savoir, parce que je me suis dit, s'il a coûté cher l'outil, il faut quand même que je le rachète. » Je dis, Sylviane, excuse-moi, tu... Il était tout neuf, en plus, non? Premier utilisateur. Wow. J'ai dit, Seigneur, quelle responsabilité. Et le pire, c'est qu'il a cassé d'un coup, en coupant une petite branche. Alors j'ai dit, Sylviane, excuse-moi, c'était neuf. Oui, oui, tu l'as payé cher, 3 euros. Excusez-moi de vous dire ça, mais l'ennemi nous donnera toujours des solutions à 2 balles. Il vous donnera ce qui lui coûte le moins cher, mais il vous le fera payer cher. Et c'est au moment où vous allez vous en servir alors que vous étiez tranquille et content, vous disiez, j'ai prévu les choses, j'ai ce qu'il faut pour la vie, Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut pour que ma famille avance, pour que mes enfants soient sous ta bénédiction, Seigneur, pour que le feu de l'Esprit embrase ma maison. En réalité, tu te rends compte que tu n'as même pas les allumettes. Il t'a donné 2 bouts de bois et t'a dit, vas-y, frotte, passe ton temps, tu vas voir si tu vas faire du feu. Parce qu'on a donné en sous-traitance notre vie spirituelle. Quand est-ce qu'on va se réveiller, s'il vous plaît, excusez-moi. Quand est-ce qu'on va se dire, Seigneur, est-ce que c'est au jour du combat qu'il faut se rendre compte qu'on n'a plus d'armes? Parce que vous savez, le combat, il est déjà là. Ce n'est pas demain. Le combat ne s'est jamais arrêté. Mais peut-être qu'il y a eu un moment dans notre vie où on a arrêté de se battre. On était fatigué de se battre. Peut-être qu'on a mal compris contre qui il fallait se battre et d'un coup, on s'est même donné, excusez-moi, l'ennemi comme ami et celui qui est notre véritable ami est devenu notre ennemi. Alors la question pour nous ce matin, c'est si nous faisions un rapide examen dans notre maison, dans notre vie personnelle, est-ce que la forge fonctionne toujours ? Si elle est cassée, moi je voudrais vous dire, invitez le Seigneur, il est capable de réparer. Et je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est que, frères et sœurs, les armes, oui, que l'ennemi a forgées contre nous n'aient pas d'effet, mais que les nôtres. Ça marche, non? Non? Oui? Éphésiens 6. Vous savez, j'ai fait le service militaire et j'étais dans la première caserne d'Italie, l'école de guerre. Tous les jours, j'avais des crampes aux bras à force de dire bonjour à tous les gradés qu'il y avait là-dedans. Il y en avait tous les pays. Et ils étaient tous décorés, ils avaient fait des guerres. Il y en avait certains, c'était tellement décoré, ils penchaient d'un côté. Mais vous savez, il y en avait qui ont eu les décorations parce qu'ils sont allés sur le terrain du combat, mais ils n'ont jamais combattu. Et l'armée de Dieu ne peut pas être une armée de parade. C'est une armée qui combat. Si vous avez, pour un moment, pour un instant, ou depuis un certain temps, arrêté de vous battre, je vous en conjure, s'il vous plaît, reprenez votre place. Rien justifie qu'on arrête de forger. Rien justifie qu'on arrête de prier. Rien justifie qu'on arrête de nous approcher de Dieu. Rien justifie qu'on arrête de louer le Seigneur. Rien justifie de laisser l'ennemi s'infiltrer là où c'est la place de Dieu. On va incliner nos têtes ce matin. Et si quelqu'un avait besoin de demander au Seigneur, non pas à moi, j'ai pas de moyens, frères et sœurs, mais au Seigneur, de dire, Seigneur, ce matin, s'il te plaît, rallume le feu, rallume le zèle dans ma vie, Seigneur. Seigneur, ranime la foi dans mon cœur. Seigneur, redonne-moi à nouveau ce feu qui vient d'en haut. Seigneur, rallume la forge pour que tout à nouveau, Seigneur, mes outils soient en bonne condition. Et Seigneur, que les armes que tu m'as données, Seigneur, soient prêtes, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me réveiller trop tard le jour où l'ennemi aura pris mes enfants. Le jour où l'ennemi aura touché mon foyer, aura touché mon couple. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? T'aurais dû le faire avant. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, dit la parole de Dieu. Je sais ce matin dans mon cœur qu'il y en a dont le couple ne va pas bien. Mais je sais aussi ce que Dieu est capable de faire. Et je voudrais vous dire ce matin une parole, une promesse de la part de Dieu. approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Et même si l'ennemi vous a convaincu de quelque chose, laissez de côté ces mensonges et attachez-vous à la vérité de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin, alors que nous sommes là, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tout à nouveau tu ranimes notre cœur. Seigneur, que là où il y a l'humignon qui fume, tout à nouveau, Seigneur, tu permettes que le feu embrase. Seigneur, nous ne voulons pas nous satisfaire de quelques chants qui nous encouragent et qui, Seigneur, nous donnent peut-être même bonne conscience. Parce que nous pouvons dire, j'ai demandé au Seigneur. Seigneur, nous voulons t'implorer ce matin, s'il te plaît. Aie pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Éternel. Ranime le feu de l'Esprit, Seigneur. Seigneur, embrase nos cœurs, embrase nos vies, embrase ton Église, Seigneur. Pour que cette ville de Arles se dise, il y a un témoignage vivant. Pour que cette région, Seigneur, soit impactée par ta parole, Seigneur. Pour que nos enfants, Seigneur, reviennent à toi, Seigneur. Seigneur, nous t'implorons, viens à notre secours, Seigneur. Seigneur, que nos erreurs ne deviennent pas, Seigneur, pour nous un piège dont l'ennemi se servira pour nous détruire, pour nous rendre esclaves, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, tu nous fais la promesse d'être celui qui tout à nouveau brise les armes de l'ennemi, brise les pièges de l'ennemi, brise les filets de l'ennemi, Seigneur, pour nous ramener tout à nouveau auprès de toi, Seigneur. Toi seul es Dieu. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a personne comme toi, Seigneur, qui nous connaît mieux que toi. Seigneur, et si ce matin, toi, tu nous reprends dans notre cœur, tu as tout le droit de le faire. Seigneur, tu n'es pas quelqu'un qui agit comme moralisateur, mais tu agis comme un Père aimant, comme un Dieu puissant, comme un ami fidèle. Tu agis, Seigneur, pour nous réveiller à toi, Seigneur. Ce matin, je voudrais encourager ceux qui ont besoin tout à nouveau que le Seigneur touche leur vie, les renouvelle, qui ont besoin d'une visitation puissant de la part de Dieu dans leur famille, dans leur couple, qui ont besoin d'une intervention de Dieu, non pas une visitation, mais une intervention de Dieu. Je voudrais vous inviter tout simplement à vous lever à votre place.